Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Ciel Espace. André Braic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome, professeur à l'Université Paris 7 Denis Diderot et vous travaillez au laboratoire AIME du CEA à Saclay. André Braic, comment nomme-t-on les astres qui nous entourent? Peut-on donner n'importe quel nom à une étoile, une planète ou un cratère sur la Lune, un volcan sur Io? Je ne sais. En tout cas, comment ça se passe?
Alors évidemment, les choses sont harmonisées à l'échelle mondiale. L'ensemble des astronomes professionnels, qui sont environ 10 000 sur Terre, est réuni au sein d'une association scientifique qui s'appelle l'Union Astronomique Internationale, qui est fondée depuis le début du XXe siècle, les années 1919 environ. Et là, il y a une règle du jeu. Cette union des astronomes professionnels est elle-même partie des unions scientifiques, des mathématiciens, physiciens et autres, et elle-même partie sous ensemble de l'UNESCO, et lui-même lié à l'ONU. Donc c'est vraiment à l'échelle mondiale que ceci est coordonné. Et c'est nécessaire, parce que comment nomme-t-on Paris, Paris? Comment nomme-t-on Marseille, il y a la République française décide des noms. Est-ce qu'on appelle une ville Constantinople ou Istanbul? Est-ce qu'on l'appelle Saint-Pétersbourg ou Leningrad? Il y a des règles pour ça, et quand vous prenez le train ou l'avion, en général, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de confusion. Je sais bien qu'il y a plusieurs Paris, mais on mélange rarement Paris-Texas et Paris-France. Donc là, pour les astres, c'est la même chose. Alors, il y a une part de tradition. Il y a des noms qui ont été donnés il y a cela 2000 ou 3000 ans, qu'évidemment nous avons conservés. Et puis, il y a une part de nouveauté, puisque la science avance énormément. Et là, il faut une règle du jeu. Et la règle du jeu n'est pas la même pour les astres. C'est-à-dire que planètes, étoiles, astéroïdes, comètes n'ont pas la même règle pour chacun.
Alors, on va les regarder morceau par morceau. Comment nomme-t-on les planètes?
Alors, pour les planètes, elles ont toutes été trouvées avant 1900. Eh bien, on a donné des noms de la mythologie grecque. On retrouve là les noms des dieux grecs. Et d'ailleurs, rapidement, ces noms ont une signification. Je veux dire par là que Mercure, c'est le messager, c'est celui qui passe devant le soleil. Vénus, on le voit le soir ou le matin, au moment le plus romantique de la journée, c'est la déesse de l'amour. Mars est un peu rouge, c'est le dieu de la guerre. Jupiter est le plus brillante des planètes, c'est le dieu des dieux, c'est Zeus, Jupiter en latin. Et puis, quant à Saturne, c'est celui qui se déplace le plus lentement dans le ciel, donc c'est la notion du temps. Le temps en grec, c'est Chronos, c'est le nom de Saturne, et Chronos en latin, c'est Saturne. Donc, alors, le mot Uranus, lui, je rappelais que le découvreur avait donné le nom de la planète du roi George, du nom du roi d'Angleterre à l'époque, donc il n'avait évidemment pas été conservé, le roi George, tout le monde s'en moque si on n'est pas anglais, et donc on a donné le mot d'Uranus, lié à la légende de Saturne d'ailleurs. Quant au mot de Neptune, je ne sais pas quel est le nom de Neptune, je pense que c'est Arago, mais j'en suis pas sûr, et c'est un mot bien choisi. Bon, il s'agit du dieu des océans et des mers, mais c'est un mot bien choisi parce qu'il y a du méthane dans l'atmosphère de Neptune, et ceci absorbe la lumière rouge et lui donne cette couleur bleue. Donc donner le nom du dieu des mers et des océans à cet objet qui est si bleu, qui fait penser aux mers tropicales, alors que la température est beaucoup plus froide là-bas, c'est finalement un bon choix. Donc les noms des planètes, ce sont les dieux grecs, et dans le système solaire, je crois qu'on a fait le tour. S'il y avait une planète supplémentaire, nous l'aurions trouvée. Et je dirais même, s'il y a une planète supplémentaire, elle chasserait une des planètes existantes. Donc nous avons 8 planètes, ça y est, c'est clos, l'affaire est réglée.
Alors, planète, étymologiquement, astre, zérant, oui. Sur la sphère des fixes. La sphère des fixes, c'est les étoiles. Est-ce qu'on nomme aujourd'hui les étoiles?
Alors, les étoiles, toutes les étoiles qui sont visibles à l'œil nu ont été nommées par les anciens. Et nous avons gardé les noms de 3 civilisations. Les noms viennent du grec, du latin et de l'arabe. Il y a un ensemble de doigts. Aldébaran, par exemple, vient de l'arabe. Deneb vient de l'arabe. Sirius, c'est du grec. Capella vient du latin, etc. Donc, il y a des noms. Souvent, il y a le nom de la constellation, le nom de l'étoile. On a mélangé un peu ces diverses civilisations. Les Chinois ou les civilisations japonaises ou océaniennes avaient des noms différents. À l'échelle mondiale, ce sont les noms donc de la mythologie arabe, latine et grecque qui sont restés. Et ça n'empêche pas un habitant de la Chine ou de l'Océanie de donner son propre nom. Alors maintenant, les objets qui sont un petit peu moins brillants, une manière de les détecter, c'est de dire c'est le premier objet, le deuxième, le troisième dans telle constellation. Donc on donne la constellation suivie d'un numéro, ou bien une lettre grecque, dire c'est l'objet alpha, bêta, gamma d'une constellation. Donc ça, c'est une manière de les détecter. Et quand l'objet est encore moins brillant, eh bien on donne ses coordonnées géographiques. Ce qui fait que nous connaissons la blague habituelle d'un astronome qui était un théoricien remarquable, mais pas un très bon observateur, qui avait un jour demandé à observer 4 étoiles autour d'un télescope. C'était 4 fois la même étoile, puisqu'il avait pris les 4 noms, celui de l'usage, celui des coordonnées géographiques, etc. Il s'agissait en fait du même objet.
Alors on voit souvent sur Internet, dans la presse, des sociétés proposer d'acheter des noms d'étoiles. C'est illégal?
Alors là, non, c'est une escroquerie. Qu'est-ce qu'on appelle escroquerie? C'est promettre à quelqu'un quelque chose qu'on ne peut pas lui donner. Et en plus d'avoir de l'argent pour ça. Donc, d'une certaine manière, on a envie d'en sourire en disant, s'il y a des gens assez bêtes et assez naïfs pour donner de l'argent à ces escrocs, bah, tant pis pour eux. De l'autre, l'enseignant que je suis, qui essaie d'apprendre les choses aux gens, c'est pas toujours très simple, quand même est scandalisé par ces aigres fins qui utilisent la naïveté humaine parce que les gens sont pas très au courant de ce qui se passe, etc., pour faire un peu d'argent. Ça, c'est pas bien. Et je trouve qu'on ne les pourchasse pas assez. Ces gens méritent une punition énorme. Il ne s'agirait pas de les mettre en prison, mais on pourrait les envoyer dans un pays difficile où ils creuseraient le sol de leurs doigts pour pouvoir survivre, avoir un peu d'eau. Ça leur ferait les pieds en quelque sorte.
Comment nomme-t-on les comètes ?
Alors, quant aux comètes, on donne le nom du découvreur. C'est-à-dire, celui qui découvre une comète donne son nom. Alors, maintenant, ça ne marche pas à tous les coups. Je donne un exemple, la comète de Halley. C'est pas Halley qui a trouvé la comète de Halley. Mais la comète de Halley avait le nom des découvreurs avant Halley. Jusqu'au moment où Newton s'est dit, mais tiens, peut-être qu'il y a des comètes qui reviennent. Et donc, a demandé à Halley, qui était plus jeune que lui, de faire ce travail. Et Halley a fait ce travail sous la direction de Newton, et il a trouvé que c'était la comète, j'ai oublié les noms des découvreurs du Moyen-Âge et des siècles d'avant, il a trouvé des comètes qui portaient des noms différents, étaient en fait la même. Du coup, on a rebaptisé la comète de Halley pour l'appeler comète de Halley. Mais la comète Temple 2, Temple 1, c'est M. Temple qui l'a trouvé. La comète Borély, c'est M. Borély à Marseille qui en a trouvé plein. Et là, il y a des numéros derrière, il y a 1, 2, 3, etc. La comète de Wilde 1, Wilde 2. Là, il y a beaucoup de Japonais, parce que les Japonais ont de très bonnes optiques, beaucoup d'amateurs japonais longs. Et alors maintenant, il y a un problème, c'est qu'il n'est pas question de mettre plus de 3 noms. Donc si par hasard, il y a 5 découvreurs, parce qu'il y a 5 scientifiques qui ont travaillé dessus, et bien seuls, il y en a 3 qui ont le droit de porter leur nom. Et maintenant, quelquefois, une comète est trouvée par une sonde spatiale. Alors on va mettre le nom de la sonde spatiale, suivi d'un numéro. Donc cette règle du nom du découvreur, bon, elle est un peu difficile à l'époque contemporaine. Alors, mais on trouve entre 4 et 5 comètes par an, d'une manière ou d'une autre.
Alors, dans le dictionnaire des noms présents dans le ciel, le dictionnaire le plus original, c'est sans doute celui des astéroïdes. Vous-même possédez, entre guillemets, un astéroïde. En tout cas, un astéroïde est à votre nom. Comment donne-t-on des noms aux astéroïdes ?
Alors, aux astéroïdes, la tradition, on a maintenu cette tradition depuis donc, les années 1800, donc depuis maintenant un peu plus de 2 siècles, le découvreur choisit le nom. Alors, par exemple, les premiers astéroïdes découverts s'appellent Pallas, Junon, Cérès, Vesta, etc. On retrouve des noms de la mythologie grecque. Et quand on a commencé à trouver beaucoup d'objets, 40, 50, 60, une centaine, là, on voit apparaître beaucoup de prénoms féminins. Les astronomes sont des hommes comme les autres. Ils ont soit des filles, soit des femmes, soit des cousines, soit des maîtresses. Donc, on retrouve
dans
toutes
l'ordre,
les femmes.
Dans l'ordre.
L'ordre que vous voulez. Et donc, on retrouve toutes les femmes qui ont joué un rôle affectif important dans la vie des astronomes découverts d'astéroïdes. Là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prénoms féminins. Alors, de temps en temps, on a le nom d'une ville. Par exemple, il y a un astéroïde Lutetia, l'honneur de Paris. Il y a Massilia, l'honneur de Marseille. Puis il y en a plein d'autres comme cela. Et puis, les choses ont un petit peu dérivé. C'était les années 1930-1950. On commençait à donner un peu n'importe quel nom. Donc, il a fallu remettre de l'ordre là-dedans. Et donc, maintenant, la règle du jeu, c'est que le découvreur a toujours la liberté de donner un nom, mais ceci passe devant un comité de l'UAI qui approuve ou désapprouve. Alors, par exemple, en ce qui me concerne, il se trouve qu'un de mes collègues, qui s'appelle Ted Bowell, qui travaille à Flagstaff, a trouvé un centre d'astéroïdes. Il a un jour donné mon nom à un astéroïde, et j'étais pas au courant d'ailleurs. Donc, un de mes collègues m'a fait remarquer ça, et j'avoue que ça vous fait un choc dans le mauvais sens du mot, parce que pour donner ce nom, il a dû écrire une petite notice qu'il a envoyée à l'Union Astronomique Internationale en disant je propose de donner ce nom d'André Braik pour telle et telle raison. Et quand vous lisez la notice qu'il a rédigée pour donner ce nom, vous avez l'impression de votre épitaphe sur votre tombe. Donc, ça, quand on est encore vivant, ça fait une sensation étonnante. Donc, voilà les règles d'astéroïdes, mais l'astéroïde, nous en connaissons maintenant, il y en a pratiquement 10 000 qui ont été nommés, et nous en soupçonnons entre Mars et Jupiter 400 000. Donc là, on a un réservoir énorme pour donner des noms de toutes sortes.
Alors, évidemment, l'exploration spatiale a permis d'avoir des cartes très intéressantes et très significatives de Vénus, de Mars, des satellites, des différentes planètes. Il y a beaucoup de choses à nommer. Est-ce qu'on nomme tout et comment nomme-t-on, encore une fois, les formations géologiques ?
La règle du jeu n'est pas la même pour Vénus, pour Mars ou les satellites de Jupiter ou de Saturne. En ce qui concerne les satellites des planètes extérieures, je suis membre du comité qui prépare ces noms, on a décidé de rendre hommage à toutes les mythologies de la Terre. L'idée, c'est de ne surtout pas donner le nom politique, à moins qu'il soit mort depuis des siècles, que ne surtout pas donner le nom d'un général, ça peut être aussi polémique, à moins là aussi qu'il soit mort, que tout le monde l'ait oublié, et de ne pas donner de nom lié à la religion non plus. J'ai envie de rajouter un clin d'œil à moins qu'ils soient morts depuis 2000 ans. C'est-à-dire qu'en gros, Isis et Osiris, ça va. Les autres attendront un peu hein, pour qu'ils tombent en désuétude. Alors, je signale ça parce qu'un jour, j'avais dit ça à un journaliste et puis il y avait une quarantaine de lettres de protestation prétendant qu'Allah est éternel. Là, j'ai vu que ceux qui écrivaient cette lettre avaient un sens de l'humour développé.
Ce sont des interdits.
Donc, On ne met pas de nom qui peut soulever la polémique, dont de nom lié à une religion, à une politique, etc. Et l'idée de faire appel aux mythologies, qui maintenant ont disparu, peu de gens croient en Isis, en Osiris, en les dieux grecs, ou les dieux océaniens, ou les dieux africains, ou tout au moins purement localement, et éventuellement, c'est une manière de rendre hommage à l'ensemble des cultures de la Terre. C'est-à-dire qu'on rend hommage aussi bien aux précolombiens, aux mayas, aux aztèques, qu'aux africains, qu'aux populations du nord de l'Europe, qu'aux japonais, qu'aux chinois, qu'aux tahitiens, etc. Et donc là, on a choisi un objet. Par exemple, je prends le cas de Japet, satellite de Saturne. On a donné des noms liés aux légendes de Roland, de la Chevalier des Tables Rondes, toutes sont légendes du Moyen-Âge celtes et français, disons. Si je prends l'exemple d'Encelade, on donne des noms liés aux mille et une nuits, aux contes des mille et une nuits. Et puis chaque satellite comme ça, un autre aura des noms des dieux vikings et nordiques, etc. Donc ça, c'est une manière de rendre hommage. Alors, une banque de noms, par exemple, tout ce qui est autour de Neptune, sur Triton, on donne des noms de toutes les divinités liées aux rivières, aux lacs, aux montagnes, aux océans, aux mers, etc., de toutes les civilisations.
Sur Vénus, c'est la planète des femmes.
Alors, sur Vénus, c'est obligatoirement le nom d'une femme. Il y a une exception, c'est qu'un objet sur Vénus a été nommé du nom de Maxwell. C'est un grand plateau sur l'est de Vénus. C'est la première chose visible, en quelque sorte, quand on regarde Vénus. On a donné le nom de Maxwell. Et on a, je me souviens, d'une longue réunion, on s'est dit, on va retirer le nom de Maxwell, puisque c'est uniquement réservé à des femmes. Et puis, un de nos collègues, d'un clin d'œil, a dit, mais après tout, Maxwell serait tellement content d'avoir tellement de femmes autour de lui qu'on le laisse. Il y a déjà pas mal d'articles qui étaient parus sur le sujet en appelant le plateau Maxwell. Et de toute façon, il n'y a pas de confusion, on a laissé ce nom-là. Par contre, le nom de femme, alors là, il y a plein d'anecdotes. Parce qu'il faut pour cela, pour avoir son nom sur Vénus, il faut premièrement être une femme, deuxièmement être décédée depuis au moins 3 ans, et troisièmement d'avoir fait quelque chose dans sa vie. Alors de temps en temps, on me cite le nom d'une héroïne coréenne du 12e siècle, dont j'avoue ne pas avoir connu l'existence, dont je regarde les biographies, ça me paraît correct, etc. Et puis dans les différents membres du comité, on suggère des noms, et ensuite nous en discutons. Et je me souviens de moments, à un moment donné, on m'a suggéré du nom d'une français, je crois que c'est Jeanne Poisson, si mes souvenirs sont bons, et on me dit qui est cette femme. Et j'ai découvert que c'était la Goulue. Alors je me suis bien gardé de donner sa profession à mes collègues astronomes, et j'ai dit c'était le modèle de Toulouse-Lautrec. Elle me dit, oh, c'est formidable. Donc la Goulue a sur Vénus un très beau cratère en hommage à l'artiste qu'elle a
inspiré,
dont elle était la muse en quelque sorte. Et alors on continue la réunion, et un peu plus tard on me donne le nom d'une autre française, et on me dit qui est-ce. Il s'agissait de la Pompadour. Alors, mes collègues américains l'ont refusé véhémentement, en me disant, pas question de donner le nom de la Pompadour, c'était la maîtresse du roi, ce qui est choquant. Alors, je leur ai dit, pas du tout, vous n'avez pas compris, c'était le roi qui était son amant, ce qui n'a rien à voir. Quand on a discuté comme ça, ils ne voulaient pas de la Pompadour, j'ai obtenu on fasse une petite... en liste d'attente, en quelque sorte, comme les avions qui sont pleins, la mise en liste d'attente, on n'a pas éliminé la mise en attente. Et puis, un petit peu plus tard dans la réunion, on me cite une américaine. Je dis qui est cette dame, on me dit c'est un poète américain de 1910, je dis c'est très bien, etc. Puis on rajoute, elle était ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Ah, je dis ça, pas question. Pour être ambassadeur, il faut être proche du pouvoir en place. Nous avons dit aucun nom lié à la politique, donc je ne saurais accepter cette dame, donc je refuse le nom. Bon, maintenant, si vous acceptez la Pompadour, peut-être qu'on peut trouver un compromis. Donc vous voyez un peu comment se passent nos réunions. Et un autre exemple, il y a 20 ans, il y a un peintre français, une dame qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Bonheur, comme nous ferons Bonheur, et nos collègues soviétiques ont refusé le nom parce que ça sonnait, hein, quand on le prononçait en russe, comme Bonheur, qui était la femme de Sakharov. Et alors nous, on a réagi en disant, mais non, on laisse ce nom-là, c'est une française et tout, qui était un grand peintre. Et les collègues soviétiques ont dit, bah, écoutez, si vous le laissez, notre problème, c'est qu'on est, nous, délégués de l'Union soviétique, et quand on rentre dans notre pays, on pensera qu'on a fait une action qu'il ne faut pas, et nous, on va se retrouver en Sibérie ou en prison. Donc, nous faites pas ce coup-là. Donc, vous voyez, tous les à côté qu'il y a, on rend hommage aux civilisations.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à nommer quand on voit, par exemple, les petites sondes Spirit et Opportunity qui roulent sur Mars? On voit même des noms de cailloux. Les cailloux ont des noms qui sont donnés par les ingénieurs qui travaillent autour, simplement parce que c'est pour se repérer, c'est plus convivial. Mmh. Jusqu'où on nomme?
Alors, de toute manière, on nomme d'abord quand une structure est énorme, quand il s'agit d'un gros volcan, d'une dépression, d'un cratère, d'un plateau, d'un canyon, d'une montagne, que sais-je, quand c'est énorme, à l'évidence, on donne un nom. Et s'il y a une demande spécifique de scientifiques, là, j'ai besoin de donner un nom là-dessus, parce que je travaille dessus, parce qu'on va le repérer autrement que par des coordonnées. Alors là, on peut dire oui. Maintenant, si un scientifique veut qu'on donne le nom à 250 cratères qui sont absolument minuscules et qui n'intéressent que lui-même, ben on ne va pas donner et non. Donc là, il y a une discussion jusqu'en... Alors, ce que je peux dire, c'est que dans les années 80, entre 1979 et 1989, nous avons donné plus de 10 000 noms. Et il y a eu une inflation. Nous avions édité un petit fascicule, enfin un gros fascicule, un bouquin, qui s'appelle le Gazetta, la Gazette en quelque sorte. Eh bien, j'avais remarqué en 1998, ce bouquin faisait 1400 pages de noms. C'est énorme. Mais c'est à dire, on trouve beaucoup de choses. Alors maintenant, il y a des noms qui sont officiels, donc adoptés par l'Union Astronomique Internationale, qui sont adoptés en Assemblée Générale une fois tous les 3 ans. Et puis, il y a aussi des noms qui sont des surnoms. De temps en temps, une sonde spatiale américaine voit un petit rocher, on le passe à la télévision, c'est rigolo, on donne le nom d'un héros de bande dessinée au petit rocher, c'est pas vraiment un nom officiel. Disons, un nom, on le donne quand on en a besoin. Quand on a besoin, on donne pas de nom. Il y a dans les déserts terrestres un tas de collines et de montagnes qui n'ont pas de nom parce que personne n'y va. Et il y a des petites formations beaucoup plus petites en France ou ailleurs, ou en Amérique ou ailleurs, qui ont des noms parce que beaucoup de gens y vont.
On nomme pour l'éternité ?
Ben, je crois que c'est comme les noms sur Terre. Le nom de Paris a changé, on l'appelait Lutèce à une époque. Le nom de Marseille n'a pas trop changé. Le nom de Nîmes, Nemosus, ça n'a pas changé non plus. D'autres ont eu beaucoup de noms. Leningrad, Saint-Pétersbourg, on en a parlé. Constantinople et Istanbul aussi, ça peut changer. Donc non, je crois que la science nous montre que rien n'est éternel. Les choses, on réagit en fonction des nouvelles, des découvertes et de la situation du moment. Je répète, les règles ne sont pas les mêmes. Sur la Lune, on donne beaucoup de noms de scientifiques, de gens connus. Sur Mars, on donne des noms de cosmonautes, de gens comme ça. Les règles sont différentes d'un objet à l'autre.
Merci André Braic, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain podcast.